Je m'appelle Chloé Maillet, j'ai fait une thèse qui s'appelle La parenté hagiographique sur la question de parenté entre le XIIIe et le XVe siècle. Et ensuite, j'ai fait des recherches postdoctorales sur les questions de changement de genre au Moyen Âge. Et je suis en train de finir un livre qui va s'appeler Transgenre au Moyen Âge.
Hier, tu nous as fait une présentation. J'avais un peu le sentiment que l'envie, c'était de parler de l'époque médiévale pour voir aussi comment on peut s'en inspirer dans nos luttes actuelles.
J'ai essayé en fait de prendre comme point d'appui le passé pour construire ce qui peut se faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fallait absolument laisser de côté puisque c'était vraiment pas intéressant. Sur les questions de genre qui résonnent avec des problèmes très actuels et avec des luttes très actuelles, c'est la question du droit des personnes intersexes. Donc, il y en a beaucoup, hein. En fait, ça touche entre 1,7 et 4% de la population qui naissent avec des choses qui troublent un petit peu la définition du masculin et du féminin, aussi bien au point de vue chromosomique, gonadique, de la constitution des organes génitaux, etc. Donc ça touche beaucoup de gens, et sans doute ça touchait déjà beaucoup de gens dans les périodes anciennes. Une des choses voilà, qui est peut-être intéressante, c'est que dans tous les textes de loi, les personnes sont définies comme étant soit des hommes, soit des femmes, soit des hermaphrodites. En fait, c'est la définition même des personnes qui est ternaire. Et donc, dans le cas des personnes intersexes qui se passent au Moyen Âge, de manière assez générale apparemment, on donne un nom qui pourra facilement changer de genre. Souvent, les médecins conseillent de donner un nom masculin aux personnes, simplement parce que le statut social est plus élevé pour des hommes qu'il l'est pour des femmes. Donc, potentiellement, c'est plus intéressant. Mais les possibilités sont laissées de pouvoir changer de statut social dans la suite de la vie. À l'inverse, aujourd'hui, en fait, il y a une prise en charge de toutes les personnes dès la petite enfance, y compris chirurgicale et hormonale, sur des petits-enfants, donc dès la naissance, qui ne sont pas consentants. S'appuyer, par exemple, dans ce cas-là, sur le droit médiéval, paradoxalement, peut permettre de donner un appui pour défendre le droit à l'autodisposition de son corps des personnes aujourd'hui. Et à l'inverse, si je veux dire un point négatif, c'est que ces possibilités quand même de tolérance vis-à-vis de variations de genre, elles sont corrélées avec un contrôle des comportements sexuels qui par contre, lui, est extrêmement rigoureux, qui compte donc ce que nous on appelle l'homosexualité, qui s'appelait pas l'homosexualité aujourd'hui, masculine comme féminine, mais aussi toutes les pratiques sexuelles qui sont dites voilà, non reproductrices. Et là, il y a, disons, il y a une tentative, on ne sait pas à quel point elle était efficace, mais de contrôle de la part de l'Église comme des autorités judiciaires qui est très très forte et qui, je pense, est une des choses qu'il ne faut pas récupérer pour les luttes actuelles, bien entendu. Il y a une des choses effectivement que je voulais faire ici et que j'aimerais faire par la suite, c'est essayer de prendre la mesure d'un débat aussi théorique sur la place des femmes dans la société médiévale, pour tout un tas de critères dans la période médiévale classique, peut-être jusqu'au XIVe siècle à peu près. Le statut, les droits, les possibilités de s'intégrer dans la société, d'être actif et libre dans la société, sont globalement plutôt meilleures que ce qu'elles seront dans les siècles suivants. Donc ça, c'est une chose qui permet un petit peu de dessiner une histoire longue, qui n'est pas qu'une histoire de l'oppression des femmes. Par exemple, le droit à la terre, le droit d'autogérer son entreprise, son travail, son atelier, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qu'on voit bien réparties dans les métiers. En revanche, cela est corrélé avec une image qui est celle de la globale infériorité de tout ce qui touche au féminin par rapport à tout ce qui touche au masculin. Par exemple, une personne qu'on va assigner femme, on va dire qu'elle est masculine, virile, et ça va être une qualité. Ça va être le fait de montrer que cette personne est une bonne personne. On va lui donner des qualificatifs ou la définir avec des qualificatifs masculins. Et en revanche, Il y a plein de textes qui montrent qu'un homme qui va être qualifié de manière assez négative, on va lui attribuer des caractères de d'efféminisation. Donc il y a une corrélation tout à fait forte, je pense, entre un statut social des personnes qui est donc globalement pas tout à fait égalitaire, mais meilleur que ce qui sera dans les siècles suivants, et un système de pensée du genre qui est très clairement hiérarchisé.